الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج کل برے اعظم افریقہ کے بعض ممالک کی
Certains pays du continent africain vont célébrer le 50e anniversaire de leur indépendance et notre association panafricaine participe dans ces célébrations. Cette association panafricaine a été fondée au sein de la communauté à l'époque du 4e calife. C'est une association qui réunit les Ahmadis d'origine africaine. En tout cas, cette association est en train de participer dans les célébrations de ces pays africains et ils m'ont demandé d'être présent lors d'une réception qui sera organisée. Je serai présent dans leur réception, mais aujourd'hui, je veux parler à propos de la liberté. Se libérer de l'esclavage et la liberté de conscience, la liberté de culte sont de grandes faveurs. Et nombre de pays africains ont été asservis pendant très longtemps. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour ces pays de célébrer leur 50e anniversaire d'indépendance. C'est là leur droit, qu'Allah fasse que cette indépendance qu'ils ont acquise il y a 50 ou 60 ans de cela, à la fois que cette indépendance soit une véritable indépendance et qu'il ne soit pas asservi de nouveau, si en bonne intention, si en toute honnêteté, si en toute justice, il profite de cette indépendance, il se peut qu'un jour, dans les années à venir, le continent africain puisse guider le monde. Quand on étudie l'histoire des religions, l'on constate que les fondateurs de ces religions ou les prophètes ont été envoyés par Dieu pour accomplir des tâches importantes. Et une de ces tâches importantes, c'est d'accorder la liberté. Le fait de libérer les autres des tyrans ou des pharaons, ou le fait de se libérer du joug des pratiques religieuses qui naissent en raison de la corruption des religions, ou en raison qu'au nom de la religion, des soi-disant garants de la foi aient mis en place ces traditions, ces rituels, dans lesquels ils trouvent leurs intérêts, des pratiques religieuses qu'ils utilisent pour asservir les gens. Ainsi donc, les prophètes viennent libérer de tout type d'asservissement. Mais malheureusement, nombre de peuples n'ont pas compris cette réalité. Et ils ont rejeté les porte-drapeaux de la liberté. Ainsi, d'une part, ils se sont privés de la véritable liberté. Et d'autre part, ils sont tombés sous le coup du châtiment de Dieu et ont été détruits. Ils ont préféré s'asservir au roi de ce monde au lieu de s'asservir au plus grand des rois. Ils se sont détournés de cet asservissement qui ouvre d'autres chapitres dans l'histoire de la liberté. En changeant de priorité dans leur quête de la liberté, non seulement qu'ils ont perdu leur liberté, mais d'autre part, ils ont détruit leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Si l'on veut comprendre ce que c'est que la liberté, l'on constatera que la vraie liberté qu'on reçoit est celle qui vient de la part des prophètes. Et nous avons devant nous le soleil de la liberté, ce soleil de la liberté dont les rayons ont atteint les confins de la terre, ce soleil qui comprend tout type de liberté. Et c'est la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a libéré les hommes de l'esclavage physique et il leur a enlevé ses joues et ses chaînes qui entravaient les coups des hommes. Ceux qui se cramponnent fermement au saint prophète sont les moyens pour accorder la liberté aujourd'hui. Dieu a conféré au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le titre de Khatam al-Nabiyyin et sa Khatamiyya embrasse tous les faits religieux et matériels et il a apposé dessus son sceau. Il n'y a pas de doute. Et après le témoignage et l'annonce de Dieu, personne ne peut avoir ce doute que c'est uniquement le sceau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui atteste de la perfection de toute excellence. Et ces excellences sont arrivées à leur apogée en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le saint prophète est l'apogée de toutes ces excellences, cette qualité de libérateur est donc arrivée à la perfection en sa personne. Il en fut le cas et le monde en a fait le constat. Le monde a constaté que cette excellence est arrivée à la perfection par son entremise. Et quant à ceux qui se cramponnent fermement au saint prophète, ils en font le constat. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le livre parfait, le Khatamul Kutub. Et dans ce livre, on a repris le sujet de la liberté sous différents angles. Nous avons ensuite l'exemple pratique du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a embelli davantage cet enseignement sublime. Dans le saint Coran, Allah déclare « Faqu rakaba », c'est-à-dire « libérer un coup » ou « libérer un esclave » ou « aider cet esclave à s'affranchir ». Dans un autre verset, Allah déclare وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Et qui pour l'amour d'Allah dépense de l'argent sur les proches parents, sur les orphelins, sur les nécessiteux, sur le voyageur et sur ceux qui demandent l'aumône ou pour libérer les esclaves. Dans le sujet qui a été évoqué plus haut, il est dit que c'est là une grande vertu. Après avoir cru en Dieu dans le dernier jour, dans ses anges, ses livres et ses prophètes, ce sont là des œuvres qui vont rapprocher l'homme de Dieu. « Il y a aussi le fait que l'on libère les esclaves. Ainsi donc, afin de maintenir sa foi, afin d'être des exemples de vertu, il est important d'affranchir des esclaves, et c'est là une très grande vertu. Dans les hadiths, on trouve nombre d'exemples à ce sujet. Par exemple, dans un hadith de Bukhari, il est dit que Hadrat Abu Huraira radiallahu a déclaré que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le musulman qui affranchira un esclave, Dieu le protégera entièrement du feu de l'enfer. Et en islam, à titre d'expiation, Dieu a prescrit la libération des esclaves. Le Saint-Coran nous présente différents exemples à ce sujet. Par exemple, il est dit que si un croyant a tué un autre croyant par erreur, comme expiation, il va devoir libérer un esclave et payer le prix du sang. Mais cela ne concerne pas uniquement le fait que l'on ait tué un croyant. On ne recommande pas la libération d'un esclave uniquement en ce cas. Il est dit aussi que si vous avez pris un engagement avec un peuple et que vous avez tué un incroyant parmi ce peuple, comme expiation, vous allez devoir libérer un esclave. Dans d'autres cas, il est dit que si vous avez brisé un engagement que vous avez pris en faisant serment au nom de Dieu, il y a différentes sanctions qui sont préconisées. Et une des sanctions est que vous devez libérer un esclave. Ainsi donc, l'islam voulait petit à petit mettre fin à toute forme d'esclavage. À l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ou avant son avènement, avoir des esclaves était monnaie courante. L'islam a mis fin à cette pratique et pour cela l'islam a préconisé des mesures. Dans un hadith cité par Hadrat Asma bint Abu Bakr, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam disait que vous devez libérer des esclaves lorsqu'il y a des éclipses du soleil. C'est-à-dire, ceux qui ont les moyens doivent certainement agir en ce sens. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a aussi protégé l'honneur de ses esclaves et leurs droits. Dans un hadith, il est dit qu'il y avait sept frères qui avaient un esclave. Un jour, un de ses frères a frappé l'esclave lorsqu'il était en colère. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il a déclaré que vous devez libérer cet esclave. Vous n'avez pas le droit d'avoir parmi vous cet esclave car vous ne savez pas comment le traiter. Ainsi donc, l'esclavage était quelque chose d'ordinaire à l'époque. Posséder des esclaves était un signe de richesse. Plus on possédait d'esclaves, plus on était considéré comme riche et puissant. Mais l'ordre émis par le saint prophète était que si vous voulez posséder le vrai trésor, c'est-à-dire le trésor de la foi, vous allez devoir affranchir vos esclaves. Et les compagnons du saint prophète, selon leurs moyens, ont libéré des douzaines, voire des milliers d'esclaves. À propos de Hadrat Othman bin Affan, il est dit qu'il avait libéré 20 000 esclaves. Et il avait libéré d'autres encore. Il a libéré tous ses esclaves selon ses moyens. Et Et il dit aussi que vous devez traiter vos esclaves comme vos frères. Vous devez les vêtir avec les vêtements que vous portez. Vous devez nourrir avec ce que vous consommez vous-même. L'exemple du saint prophète est devant nous. Lorsqu'il s'est marié avec Hadrat Khadija, celle-ci lui a confié tous ses biens et tous ses esclaves. Et le saint prophète a libéré ses esclaves. Zayd bin Haritha était son esclave affranchi qu'il avait pris comme fils adoptif. Et il l'avait traité avec une si grande aménité que lorsque les parents de Zayd sont venus le reprendre, Zayd a refusé de les accompagner. Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a traité cette personne avec cette grande aménité. Il a atteint l'apogée de la bienveillance et c'est pour cette raison que Zayd a préféré l'esclavage à la liberté. En raison de son amour pour le saint prophète, il a mis de côté ses relations de sang. Ceux qui s'attaquent à l'islam et au saint prophète ne peuvent présenter la moindre exemple de ce genre dans le domaine de la liberté. Ils ne peuvent présenter l'exemple de quelqu'un qui a ainsi libéré autant d'esclaves et des hommes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à ses suivants qu'ils devaient bien traiter leurs domestiques lorsqu'ils travaillent et si on leur confie une tâche difficile qu'on doit les soutenir et les aider. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a changé la définition même de l'esclavage. C'est pour cette raison qu'une orientaliste italienne, le docteur Viaglieri, a déclaré à ce sujet que l'esclavage existe depuis l'aube de la société humaine et l'esclavage existe jusqu'à présent. Les esclaves qui vivaient dans les familles musulmanes étaient mieux traités que les esclaves d'ailleurs. Ce sera le comble de l'injustice que de comparer l'esclavage qui existait en Orient avec l'esclavage qu'on a vu 100 ans de cela aux Amériques. Les hadiths du saint prophète sont emplis de compassion humaine. Le saint prophète disait que ne dites pas que celui-ci est mon esclave, mais dites qu'il est mon fils. Ne dites pas que celle-là est ma domestique, mais dites que c'est ma fille. L'orientaliste déclare que si l'on médite sur ces faits historiques, l'on constatera que le saint prophète a apporté des changements révolutionnaires dans ce chapitre. Avant l'avènement de l'islam, celui qui n'arrivait pas à payer ses dettes pouvait être réduit en esclavage. Si quelqu'un n'arrivait pas à payer son créancier, il pourrait être asservi à celui-ci jusqu'à ce qu'il paye ses dettes. Il y avait cette possibilité qui existait. Mais elle déclare qu'après l'islam, aucun musulman ne pouvait réduire à l'esclavage un autre musulman. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas uniquement limité l'esclavage, mais il a donné des directives à ce sujet. Et il leur a demandé de progresser dans cette voie, afin que petit à petit, ils arrivent à libérer tous les esclaves. Le professeur Viaglieri avait écrit cet ouvrage en langue italienne et cela a été traduit en langue anglaise et la Jamaat des États-Unis avait publié cet ouvrage. Elle a présenté les enseignements de l'islam d'une très bonne façon. On pourra publier de nouveau cet ouvrage s'il n'y a pas de droit d'auteur et s'ils ont eu la permission de publier cet ouvrage, ils peuvent publier cet ouvrage, car ce livre suffit pour clouer le bec aux ennemis de l'islam, ceux qui ne cessent de critiquer et d'attaquer le saint prophète. Ainsi donc, même des non-musulmans ont accepté la beauté de ses enseignements et l'exemple du saint prophète. C'est un très grand exemple, un exemple qui nous présente la vérité concernant la liberté. Dans le Saint-Coran et dans les hadiths, nous trouvons d'innombrables enseignements à ce sujet. Et c'est en suivant ces préceptes et ces enseignements que l'on pourra accorder à l'homme la liberté et que l'on pourra établir la paix dans le monde. En Afrique, dans ces pays où on a eu l'indépendance, les Ahmadis de ces pays doivent répandre ces enseignements et faire en sorte que les gens puissent s'asservir au saint prophète afin qu'ils puissent connaître le sens réel de la liberté. Ce n'est pas en célébrant le cinquantenaire de l'indépendance que l'on pourra maintenir sa liberté. L'on pourra détenir cette liberté lorsqu'on va comprendre cette réalité, lorsque les dirigeants et les peuples vont comprendre que nous devons tout faire pour maintenir cette liberté. Et quelle est la voie que nous allons devoir suivre pour cela? Cette voie, on va la trouver en suivant l'exemple du Saint-Prophète et dans les enseignements du Saint-Coran. Le professeur Vaglieri avait dit qu'on n'a pas le droit de faire des esclaves musulmans, mais dans une vraie société musulmane, l'on ne pourra jamais asservir quiconque. C'est là un point très important pour un musulman. Dans le dernier conseil que le Saint-Prophète a prodigué à sa Oumma avant son décès, il a dit aux musulmans que vous ne devez pas oublier mes enseignements concernant la prière et les esclaves. Mais la majorité des musulmans, en particulier les nantis et ceux qui sont au pouvoir, ont malheureusement oublié ces deux enseignements. Ils n'ont pas cette ardeur pour accomplir les prières. On ne voit pas en leur personne la crainte de Dieu. Et ils n'essayent pas non plus d'enlever cet esclavage. Aujourd'hui, on ne voit pas des esclaves enchaînés, mais au nom de l'État, on est en train de traiter le peuple comme un esclave. Certains pays sont secoués par des agitations, en particulier des pays arabes. Cette agitation existe tout simplement parce que ces peuples ont compris qu'on est en train de les traiter comme des esclaves. Au nom de la démocratie, il y a un gouvernement qui prend le pouvoir et le président veut être président à vie. Et il désire que ses enfants prennent les rênes du pouvoir après lui. Ses leaders sont entourés de ceux qui les adulent, de ceux qui cherchent leurs intérêts. Et ces derniers ont changé leurs priorités et leurs valeurs. Et ensuite, ils font tout pour maintenir leur pouvoir et font tuer leur peuple. Et les grandes puissances, les ennemis de l'islam ou ceux qui cherchent leurs intérêts font main basse sur les ressources du pays et ils attisent ces agitations populaires, ces agitations qui ne sont que le résultat des efforts de ces peuples pour se libérer de la tyrannie de l'État. Ils viennent les aider, mais commence un cercle vicieux qui fait retourner le pays 100 ans en arrière. Et ils transforment cette quête de la liberté du peuple en asservissement. Ce peuple sort de son esclavage pour s'asservir aux autres. S'ils ne le font pas directement, eh bien indirectement, ils se réduisent à l'esclavage. Il y a certaines grandes puissances qui ont soutenu certains gouvernements dans le passé. Et ainsi, ils ont maintenu au pouvoir certains dirigeants pendant des années. Et ils ne se sont pas souciés du tout du droit qu'ils ont usurpé au peuple. Quand ceux qui sont au pouvoir ne servent plus leur intérêt, ils les renversent au nom de la liberté du peuple. Mais dans certains pays, même après avoir renversé ceux qui étaient au pouvoir, on l'a vu dans le passé récent, lorsqu'ils ont renversé certains qui étaient au pouvoir et qu'ils ont placé d'autres, les soucis de ces grandes puissances n'ont pas diminué parce que ceux qui ont pris les pouvoirs ne servent pas leur intérêt et ces changements ne sont pas en accord avec leurs désirs, ou qu'il y a les possibilités qu'il n'y aura pas de changements qui seront en leur faveur, et tout cela les rend soucieux. Et ainsi débute une autre ère de troubles et d'hypocrisie. Cela a débuté dans certaines régions, et le peuple est victime de malentendus. Il se débarrasse d'un asservissement et se réduise à l'esclavage entre les mains d'un autre gouvernement. Ils ont compris cela maintenant. Ils ont compris qu'ils ont perdu leur liberté. Les richesses du pays ne sont pas utilisées pour le bien-être du peuple. Ces richesses ne sont pas utilisées pour qu'ils retrouvent leurs droits, pour leur donner une bonne éducation. Et cela ne va pas se faire, car ceux qui prennent les rênes du pouvoir ne cherchent que leurs intérêts. La pauvreté, un niveau de vie inférieur existait parmi le peuple et cela va perdurer. Ce sont des vains désirs si l'on pense que cela va disparaître. Vous allez voir cela après quelque temps. Tout cela parce que les dirigeants ne suivent pas les conseils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se disent musulmans, mais ils ne suivent pas ces conseils. Auparavant, d'aucuns avaient des esclaves parce qu'ils étaient riches. Maintenant, on utilise la richesse de l'État pour asservir le peuple. Les médias ont commencé à parler à ce sujet. On a des images à ce sujet. Ils disent que même dans ces pays riches en pétrodollars, il y a la pauvreté. D'une part, il y a des palais faits d'or. D'autre part, il y a ces familles qui ne mangent pas à leur faim deux fois par jour. Ainsi, on est en train d'usurper leurs droits. On est en train d'asservir le peuple. À l'époque du calife Omar, celui-ci a fait revenir son armée des contrées chrétiennes parce que l'ennemi était en plus grand nombre et que les musulmans ne pouvaient plus maintenir leur présence dans ces contrées. Et les musulmans ont retourné à ces populations chrétiennes la taxe qu'ils avaient prise pour leur protection. Ils avaient pris cette taxe pour qu'ils leur accordent leurs droits. Ils leur ont retourné cet axe car ils ne pouvaient plus leur accorder leur protection et leurs droits. Et les populations chrétiennes étaient en larmes parce qu'ils voulaient que les musulmans retournent. Ils disaient, nous prions pour que vous retournions parce que nous n'avons pas vu des dirigeants aussi justes que vous. Nos dirigeants ne nous ont pas accordé ces droits que vous, les musulmans, vous nous avez accordés et ne nous ont pas traités avec la même équité que vous nous avez traités. Mais aujourd'hui, les dirigeants musulmans sont en train de spolier les richesses des musulmans et il n'y a plus de justice dans ces pays. On est en train d'usurper les droits des uns et des autres. La vie et les biens des gens ne sont plus à l'abri. Et ils disent avec hardiesse que personne d'autre ne peut faire ce que nous sommes en train de faire en faveur du peuple. Ces révolutions que l'on voit dans ces pays et le fait que les partis intéressés y trouvent leurs avantages. Et certains, au nom de la religion, essayent de trouver leurs avantages. Toute cette situation ne devrait pas exister ou n'aurait pas existé si on avait accordé aux populations leurs droits, si ces États étaient justes et s'ils avaient protégé la liberté du peuple. Si ces gouvernants étaient justes et équitables, au lieu d'être avides, il n'y aurait pas eu ces troubles. Les populations n'ont aucune connaissance de la foi et de la religion, et les religieux ont donné naissance à des pratiques pernicieuses. Ils ont mal interprété les préceptes de la foi et par ce faire, ils ont enchaîné ces populations avec ces joues, avec ces rituels, avec ces pratiques condamnables et ils les ont réduits à l'esclavage. Dieu a envoyé ce grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour rétablir la grandeur des valeurs humaines. Et à ce sujet, il a déclaré « وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ » Et ce prophète leur ôte leur fardeau et les entraves qui pesaient sur eux. Mais aujourd'hui, la situation est tout à fait contraire. Dans ces pays musulmans, on dit avoir accepté ce prophète. Après l'avoir accepté, on aurait dû voir des exemples de justice et d'équité. Et les pays non musulmans auraient dû prendre ces pays musulmans comme exemple en voyant leur sens de justice et d'équité. Mais ce que nous voyons est tout à fait le contraire. Et les oulémas qui auraient dû préconiser les préceptes de l'islam et qui auraient dû débarrasser les musulmans de toute pratique innovante, ces oulémas, au contraire, ont enchaîné les coups des musulmans. Tous deux ont enchaîné les musulmans. Ils les ont enchaînés et ont placé ces boulets. On n'est pas en train d'accuser uniquement les dirigeants, mais on condamne aussi ceux qui ont répandu ces pratiques, ces rituels, ces traditions au nom de la religion et qui ont joué avec les sentiments du peuple et qui les ont réduits à l'esclavage. Et cela va perdurer, ne va pas s'arrêter tant que l'on ne va pas accepter celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui est venu rétablir les valeurs humaines, celui qui est venu les libérer de ces chaînes et de ces boulets, et celui qui est venu nous enseigner que nous devons accepter l'asservissement de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cet asservissement qui va nous mener vers d'autres voies pour nous faire retrouver la liberté. Et c'est là qu'on y verra la justice et l'équité. Et on verra une société pure et saine où l'on ne va pas protester dans les rues pour retrouver sa liberté, où on ne va pas utiliser des moyens illégitimes pour retrouver sa liberté, mais au contraire, où les rois et les pauvres vont faire de leur mieux pour accorder aux autres ce qui leur est dû. Aujourd'hui, il y a un seul moyen pour que les musulmans retrouvent leur dignité, pour qu'ils se protègent de ces troubles. Le seul moyen, c'est de suivre les préceptes de Dieu et de son prophète. Et cela ne sera pas possible tant qu'on ne cesse pas de rejeter celui qui a été envoyé par Dieu. Celui qui a été envoyé pour rétablir ces deux droits. Le Messie promis, alayhi salam, nous a présenté ses enseignements. Des enseignements qui donnent la garantie d'une liberté permanente. Il déclare que l'on se souvienne qu'un musulman doit être toujours prêt pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures, tout comme il considère Dieu comme unique et sans partenaire en sa personne et en ses attributs. Il doit montrer cela dans la pratique et traiter avec bienveillance et avec aménité ces créatures. Tant que vos relations ne seront pas saines, votre relation avec Dieu ne le sera pas non plus. C'est vrai que le plus grand droit revient à Dieu, mais traiter avec bienveillance ces créatures est un reflet de cette relation avec Dieu. Quant à celui qui ne traite pas bienveillamment ses frères, il ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Mais en fait, l'on doit considérer l'autre comme son frère. Si l'on méprise autrui, si l'on se considère supérieur à autrui, et si l'on s'efforce de mépriser les autres, l'on ne pourra jamais être juste envers les autres. On ne pourra pas attendre qu'on traite avec justice les autres. Le Messie premier islam déclare que le saint prophète a fondé cette communauté et chaque membre de cette communauté était pur et chacun d'entre eux avait sacrifié sa vie pour la foi. Il n'y a pas un seul qui s'est comporté en hypocrite. Tous s'acquittaient de leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Ainsi donc, quand la foi a prééminence sur le monde, c'est là qu'en toute sincérité, l'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on va aussi s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Aujourd'hui, nous ne voyons pas un seul leader parmi les musulmans dans ces pays musulmans, un seul leader qui pourra atteindre cette norme. Et si on n'a pas de dirigeant juste et équitable, eh bien, chacun va suivre la voie qu'il désire pour retrouver ses droits et sa liberté. Et les parties intéressées essayent d'y trouver leur avantage. Au nom de la justice, au nom de la liberté, on ouvre de nouvelles pages dans l'histoire de l'injustice. Et au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, on sort d'un esclavage pour tomber dans un autre. Regardez la plupart de ces pays africains, ou regardez ces pays musulmans, nous voyons la même chose partout. Ils ont pu se libérer de l'esclavage, mais ils se sont asservis eux-mêmes. Que Dieu fasse que les dirigeants musulmans, que les dirigeants africains et les politiques et l'armée, car celle-ci, dans nombre de cas, prend le pouvoir au nom de la révolution, et que les leaders religieux ou que ces oulémas, qu'ils comprennent cette vérité en enchaînant leur peuple, en étant injuste, en usurpant les droits des autres, ils vont tomber sous le coup du châtiment de Dieu. On questionnera chaque berger concernant ses brebis. S'est-il acquitté de ses devoirs? A-t-il assumé ses responsabilités? ou a-t-il rempli ses poches des richesses du peuple? Il cite le nom de l'islam, de Dieu et de son prophète, mais ont-ils respecté les préceptes de l'islam? Si la réponse est négative, eh bien, ils vont certainement tomber sous le coup du châtiment de Dieu, car on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut rien cacher à Dieu. Allah déclare à propos du véritable croyant qu'il est celui qui respecte ses engagements et ses promesses. Ainsi donc, les chefs d'État seront questionnés concernant leur engagement. Lorsqu'ils prêtent serment, ils prennent Dieu à témoin. Ils font le serment qu'ils feront des efforts pour le bonheur du peuple, pour l'avantage du pays, pour établir la justice et la liberté. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous constatons qu'ils ont spolié les biens de la nation. Les ulémas ont fait de la religion leur fonds de commerce. Ils ont fait porter au peuple les chaînes de ses rituels, de ses traditions, de ses croyances erronées, afin de maintenir leur pouvoir et leur ascendant sur les peuples. Et les peuples aussi ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Ainsi, puisqu'on ne s'acquitte pas de ses devoirs et de ses engagements, chacun est en train d'appeler la colère de Dieu. Et ces agitations sont la conclusion logique de tout cela. Il y a aussi le terrorisme, il y a le marasme économique, l'anarchie. Tout cela n'est pas présent aujourd'hui, mais cela nous présente un futur très sombre. Prenez l'exemple du Pakistan. Après l'indépendance, tout cela est arrivé à son comble. Et quotidiennement, cela est en train de prendre de l'ampleur. Personne ne peut dire ce qui va se passer demain. Donc, comment attendre un futur meilleur? Nous nous sommes libérés du joug des Britanniques, mais nous nous sommes asservis entre les mains de nos compatriotes, et cela est encore plus lourd encore. Que Dieu ait pitié de notre peuple et de notre pays. Lors de la fondation du Pakistan, le Qaïd-e-Azam, le fondateur du Pakistan, avait annoncé que toute personne aura la liberté de culte dans ce pays et tous les citoyens de ce pays sont égaux. Mais comment sont-ils en train de traiter les Ahmadis? On attribue des faussetés aux Ahmadis. Les Ahmadis qui préfèrent s'asservir au saint prophète au lieu de chercher des milliers de libertés. Les Ahmadis sont prêts à faire couper leur cou pour la cause du Saint-Prophète, mais on accuse à tort les Ahmadis. Ils disent que les Ahmadis ont porté atteinte à l'honneur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne nous accordent aucun droit en tant que citoyens de ce pays. Ils ne nous accordent aucune importance. Ils peuvent nous priver de tous nos droits. Nous allons endurer cela. Nous sommes en train d'endurer cela. Mais jamais ces soi-disant ulémas et ces dirigeants, nous allons nous séparer du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils le désirent. Les Ahmadis n'ont pas le droit de vote au Pakistan parce qu'ils disent, ces personnes, que vous aurez la liberté et le droit de vote quand vous allez annoncer que vous n'êtes pas des musulmans. Quand vous allez dire que vous n'êtes pas un suivant du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, nous sommes prêts, chacun d'entre nous, les Ahmadis, d'être brisés en mille morceaux, mais nous ne sommes pas prêts à cracher même sur une telle liberté. Une liberté ou un droit de vote qui vont nous séparer de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Prenez cette liberté, vous, les gens de ce monde. Nous préférons à cette liberté nous asservir au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous préférons être la poussière de chez Saussure. Et nous voulons être de véritables serviteurs de Dieu, de ceux qui comprennent ce que sont que les droits de Dieu et qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu, et qui comprennent leurs devoirs envers autrui et qui s'acquittent de leurs devoirs envers autrui. Un jour viendra lorsque notre humilité, lorsque notre asservissement va montrer au monde ce que c'est que la vraie liberté. Et ceux qui se disent libres, mais qui porte ses chaînes et ses boulets, eux qui sont enchaînés, soit eux ou soit leurs descendants, un jour ou autre, ils vont s'asservir au Messie du Saint-Prophète et seront fiers d'être leurs esclaves. Et grâce à cela, ils vont comprendre ce que c'est que la liberté. La liberté pour laquelle le saint prophète a été envoyé. Que Dieu fasse que le monde puisse comprendre ce que c'est que cette liberté, que le monde puisse voir cette liberté et se protéger de ces conséquences désastreuses qui naissent lorsqu'on rejette le prophète de Dieu. Que Dieu nous accorde à nous tous, les Ahmadis, patience et persévérance au cours de ces jours difficiles et qu'il nous accorde la possibilité de prier.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر